Atlantique. L'appli mobile totalement gratuite et enrichie de nouvelles fonctionnalités vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique. Grandir. Ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la crédibilité de la CEDEAO, question qui mérite d'être posée, d'être débattue, d'autant qu'en moins de 18 mois, l'Afrique de l'Ouest a été le théâtre de 4 coups d'État, 2 au Mali, 1 en Guinée, et le plus récent, lundi au Burkina Faso, des putschs tous condamnés par l'organisation sous-régionale qui, malgré les sanctions, est incapable d'empêcher les coups de force militaires. Une fermeté qui n'a donc aucun effet dissuasif. D'ailleurs, le coup d'État au Burkina Faso est intervenu 2 semaines après les sévères sanctions adoptées contre le Mali. Une fermeté qui plus est braque, on le voit bien, une grande partie de la population qui salue ces coups d'État. La CEDEAO est donc affaiblie. Est-elle encore crédible? Vos analyses nous intéressent et dites-nous quelle est désormais sa marge de manœuvre pour restaurer l'ordre constitutionnel dans ces 3 pays, mais aussi pour éviter d'autres putschs dans la région. 33 9 693 693 70, et vos centaines de réactions sur nos réseaux sociaux. Merci de l'intérêt que vous portez à cette émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction et on va commencer avec des questions sur l'élection présidentielle du mois d'avril en France. Bonjour Noël. Noël, à
bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Merci. Merci de nous appeler de la capitale économique ivoirienne. Quelles sont vos questions?
Oui, Juan, à moins de 3 mois des élections présidentielles en France, le président Macron n'a toujours pas officialisé sa candidature, laissant entendre qu'il se prononcera en temps voulu. Mmh. Alors, je voudrais savoir pourquoi le président n'a toujours pas officialisé sa candidature.
Ah oui, j'annoncerai ma décision en temps voulu. Voilà ce qu'a répondu le président Macron à un étudiant qui l'interrogeait sur ses intentions lors d'un déplacement dans le centre de la France. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Juan, bonjour Noël.
Chef du service politique de RFI, vous étiez justement aux côtés du président Macron ces 2 derniers jours. Expliquez-nous pourquoi, alors que nous sommes quand même à 74 jours du premier tour, pourquoi Emmanuel Macron n'a toujours pas annoncé sa candidature?
Oui, Juan, c'est la question que tout le monde se pose, hein, mais Emmanuel Macron n'a pas vraiment intérêt à se déclarer trop rapidement. En tout cas, c'est l'analyse qu'on fait dans son entourage. Un ministre me disait il y a quelque temps que le mieux pour lui, c'était le plus tard possible. Ça lui permet, pendant que les autres candidats se jettent un peu dans la bataille, d'apparaître toujours au-dessus de la mêlée en se présentant comme un président au travail jusqu'au bout, il a dit jusqu'au dernier quart d'heure. Lundi, dans la Creuse, Emmanuel Macron a en effet dit qu'il se déclarerait en temps voulu, mais parce qu'il y avait encore des choses à faire du travail, comme pour justifier cette attente et évacuer la pression autour de son annonce de candidature. D'ailleurs, les autres candidats commencent à trouver le temps long, car cette situation gèle un peu le débat dans la campagne.
Oui, en tout cas, Valérie Gasse, c'est clairement un faux suspense qu'entretient Emmanuel Macron. Il n'y a aucun doute, il va se présenter pour être réélu.
Oui, il n'y a pas de doute, Juan, vous avez raison. Emmanuel Macron a d'ailleurs dit qu'il en avait envie dans une interview récemment. Il attend juste le bon moment pour faire sa déclaration. La stratégie du président, c'est de faire en sorte que sa candidature apparaisse comme une évidence en attendant l'officialisation. Cela lui permet d'être l'acteur principal de la campagne sans pour autant descendre dans l'arène. Tous les présidents sortants ont un peu fait ça, hein, ont un peu profité de la situation face à leurs adversaires. Emmanuel Macron a dit qu'il se déclarera en temps voulu, Noël l'a bien noté. En termes de calendrier, ça n'est pas une indication très précise. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait 2 paramètres pour déterminer le calendrier de cette annonce. Le début de la présidence française de l'Union européenne, début janvier, maintenant c'est bon, c'est passé. Il reste quoi? La question du Covid. Difficile de se déclarer candidat dans une situation sanitaire tendue. Mais il y a des signes d'amélioration. En tout cas, le gouvernement fait miroiter le bout du tunnel, même si les infections restent encore très, très nombreuses. On entre donc dans la phase de tous les possibles.
Alors, Noël, vous avez d'autres questions à poser à Valérie Gasse?
Oui, y a-t-il une date limite à respecter pour annoncer sa candidature?
Ah, une date limite, il y a en tout cas une date butoir déjà pour déposer les parrainages, Valérie.
Voilà, c'est ça, c'est le 4 mars, la date butoir pour déposer ses parrainages. Il faut en effet en France 500 signatures d'élus pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Donc cette date, c'est la limite des limites. Mais il est vraisemblable qu'Emmanuel Macron n'attendra pas si longtemps. Nous sommes bientôt au mois de février, ça ne devrait plus trop tarder. Un des conseillers du président, qui précise bien sûr que ce n'est que son opinion personnelle et que, en fait, personne n'en sait rien, eh bien, il estime qu'il faut qu'il ait fait acte de candidature avant le 25 février, mais là, ce serait vraiment très tard, au moment où le Parlement arrête ses travaux.
Donc, on s'attend à une confirmation mi-février.
Ah là, ce serait tout à fait possible.
Une dernière question, Noël.
Que dit le sondage sur ces chances d'être élu à ce scrutin ?
Ah, pour l'instant, Valérie Gasse, et je parle sous votre contrôle évidemment, les instituts de sondage le donnent en tête en tout cas du premier tour.
Oui, jusqu'ici, tout va bien pour Emmanuel Macron. Les sondages sont plutôt bons depuis des mois. Il est en tête entre 22 et 25% des intentions de vote au premier tour. Donc à ce stade, il paraît presque assuré d'être dans le duel final, car il devance largement tous ses adversaires, quel qu'il soit. C'est plutôt en ce moment la bataille pour la deuxième place qui anime la campagne entre surtout les candidats de droite, Pécresse, Le Pen, Zemmour. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué en politique, chacun le sait. Les dernières enquêtes montrent quand même une légère baisse d'Emmanuel Macron depuis qu'il a dit qu'il avait envie d'emmerder les non-vaccinés. La vraie campagne, elle n'a pas vraiment commencé encore et c'est la déclaration d'Emmanuel Macron qui va certainement la lancer.
Et on suivra ça avec vous, Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Noël, très bonne journée à Abidjan où il est 8h17. Merci de nous avoir appelés. On va repasser au standard au 33 9 693 693 70. On a reçu ces derniers jours plusieurs questions concernant les tensions entre l'Ukraine et la Russie. On va déjà prendre une question ce matin. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan.
À Dakar, au Sénégal, nous vous écoutons.
Oui. À l'issue du sommet sur l'Ukraine, Russes et Américains semblaient satisfaits. Pourtant, l'OTAN a annoncé le déploiement de renforts militaires en Europe de l'Est. Comment expliquer cette annonce de l'OTAN alors que le dialogue semblait établi entre Moscou et Washington?
Allez, c'est vrai que lundi, l'OTAN a annoncé l'envoi de renforts militaires en Europe de l'Est, dont des navires de guerre et des avions de combat. De son côté, Washington a placé 8500 militaires en état d'alerte, des militaires donc susceptibles de renforcer les rangs de l'OTAN. Et hier, les États-Unis ont même livré des missiles anti-chars à l'Ukraine. Bonjour Anissa El-Jabri.
Bonjour.
Vous êtes correspondante permanente de RFI à Moscou. On voit bien tous ces échanges diplomatiques, tous ces sommets. Mamadou faisait référence à cette rencontre vendredi entre le secrétaire d'État américain et le ministre russe des Affaires étrangères. Rencontre qui, visiblement, s'était plutôt bien passée. Et puis là, on a eu ce communiqué de l'OTAN lundi. Que s'est-il passé, Anissa ?
Parce que franchement, je ne parlerai pas de satisfaction à l'issue de la rencontre de vendredi dernier, ni même vraiment de dialogue établi. Alors bien sûr, le climat, vous avez raison, a été un peu meilleur. On l'a vu, les deux parties sont tombées d'accord pour, je cite, un dialogue raisonnable pour que l'émotion retombe. Mais ça n'est pas la première fois dans cette crise diplomatique qui se déroule depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas la première fois qu'une rencontre se déroule dans un climat bien moins électrique qu'attendu. C'était déjà le cas à Genève au début du mois, mais sur le fond, rien ne change. Le ministre des Affaires étrangères russe avait lui-même parlé ce vendredi de toute façon de réunion intermédiaire. Chacun compte toujours sur ses positions. Je vous les rappelle, la Russie demande que l'OTAN s'engage par écrit à ne pas s'élargir. Les Occidentaux répondent que c'est une demande impossible à satisfaire et ça, je vous le rappelle pour deux raisons. D'abord parce que ce n'est pas à la Russie de décider ce que doit faire l'OTAN et ensuite parce qu'il y a un droit de chaque pays à décider de son orientation stratégique et de ses choix de défense. Et comme à chaque fois, d'ailleurs, et c'était encore le cas vendredi, le ministre russe des Affaires étrangères a précisé que si les Occidentaux continuaient d'ignorer ses préoccupations légitimes, cela aurait, je cite, les conséquences les plus graves.
Oui, d'autant que, rappelons-le, 100 000 soldats russes sont massés aux frontières de l'Ukraine. D'autres questions, Mamadou ?
Oui, la deuxième question. Comment réagissent les autorités russes face à cette annonce de l'OTAN ? Et peut-on craindre une escalade dans l'armement aux frontières ?
Anissa El-Jabri, vous qui êtes à Moscou, dites-nous comment réagissent les autorités ?
Eh bien, ils réagissent de deux manières en réalité, peut-être même trois. La première, c'est la rhétorique, c'est de parler des Occidentaux comme de ceux qui hystérisent le débat et vous l'avez compris, de les rendre responsables de la situation et du fond du problème soulevé et de l'escalade. Il y a les gestes aussi, c'est à chaque fois une nouvelle démonstration de force sur le terrain. La semaine dernière, Moscou annonçait des manœuvres navales dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique, la Méditerranée, des exercices conjoints avec la Biélorussie aux frontières de l'Union européenne. Et puis, eh bien, on en a parlé hier sur cette antenne, quelques heures après l'annonce de l'OTAN. Cette fois, l'armée russe a annoncé une nouvelle série de manœuvres à proximité de l'Ukraine et de la Crimée annexée. Ont été déployés 6 000 hommes, des avions de chasse, des bombardiers, mais aussi, car c'est une opération interarmée, des groupes de navires, des flottes de la mer Noire et de la Caspienne. Alors, l'objectif affiché de Moscou, c'est de coordonner l'action de la marine et de l'aviation lors de tirs de missiles, de vérifier aussi l'état de préparation au combat des soldats sur ces bases dans les régions du sud du pays. Enfin, l'autre réaction, en tout cas l'attitude intéressante à observer, elle concerne Vladimir Poutine. Vous savez qu'on le répète souvent, c'est le président russe seul qui décide. Et pendant que tout le monde se demande ce qu'il veut vraiment, eh bien, il joue l'indifférence. Hier après-midi, par exemple, pendant ce déploiement militaire que je viens de vous décrire, eh bien, le président russe était en conférence téléphonique avec des sportifs. Il parlait Jeux Olympiques à Pékin. Et Vladimir Poutine disait y attendre, je cite, un triomphe des athlètes russes.
A-t-on répondu à vos questions, Mamadou ?
Entièrement, merci beaucoup.
Et un grand merci évidemment à Anissa El Jabri, correspondante permanente de RFI à Moscou. Bonne journée à tous les deux. Vos questions à la rédaction, vous avez écouté le journal de RFI, vous souhaitez un complément d'information, et bien surtout n'hésitez pas, on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre en direct. Almani, bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les autorités de la radio mondiale.
À Ouaïgouya, au Burkina Faso, vous avez des questions concernant les cours du pétrole?
Évidemment. Alors, les prix du pétrole s'envolent. En effet, ils ont atteint leur plus haut niveau depuis 2014, selon un article sur l'économie mondiale. Alors, j'ai des questions. Ma première question, comment expliquer cette augmentation ?
Alors, effectivement, bonne question qui interpelle plus d'un auditeur, puisque cette augmentation des cours a forcément des répercussions. Ensuite, lorsque chacun va acheter son essence, Francis Perrin, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, vous êtes spécialiste des questions énergétiques. Le baril de Brent, le brut de mer du Nord, à près de 90 dollars, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis 2014. À quoi est due cette hausse ?
Cette hausse très forte, soulignée justement par votre auditeur, est due à la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, la forte croissance économique mondiale, et on sait aujourd'hui que Omicron ne va pas casser cette croissance économique. Cette forte croissance économique entraîne évidemment une augmentation de la consommation d'énergie, dont la consommation de pétrole. Donc ça a tendance à pousser les prix à la hausse.
Donc ça veut dire,
en face,
excusez-moi,
la
Francis,
production...
Ça veut dire, Francis Perrin, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de pétrole sur le marché ?
Alors justement, la production a un petit peu du mal à suivre la forte croissance de la consommation pétrolière mondiale, elle-même liée à une forte croissance économique. En matière de demande, la demande, la consommation, elle peut repartir fortement à la hausse parce que l'économie mondiale va mieux. Mais du côté de la production, du côté de l'offre, il faut des investissements, il y a des contraintes industrielles, donc le temps de réaction entre demande et offre, entre consommation et production, n'est pas forcément le même. Par ailleurs, nous avons au niveau mondial des stocks pétroliers qui sont relativement bas. Et sur un marché, quand vous avez une forte croissance de la consommation, une production qui est un petit peu à la traîne et des stocks qui sont assez bas, en général, ça veut dire augmentation des prix. Et à ça, il faut ajouter le dernier élément du menu, ce sont les tensions géopolitiques. Bien sûr, la menace de guerre russo-ukrainienne, ce qui se passe et ce qui s'est passé récemment au début de l'année au Kazakhstan, pays producteur et exportateur de pétrole, une attaque récente à Abu Dhabi contre une installation de stockage pétrolier qui a fait malheureusement quelques morts et qui a fait encore monter les prix du pétrole. Donc la hausse des prix du pétrole, c'est le résultat de ces différents éléments portant sur la consommation pétrolière mondiale, sur la production pétrolière mondiale, sur des stocks relativement faibles, et tout ça attisé par de fortes tensions géopolitiques qui peuvent avoir, pas toujours, mais souvent, une petite odeur de pétrole et d'énergie.
Oui, Francis Perrin, en quelques mots, Almani voulait savoir jusqu'où pouvait aller cette hausse des prix du pétrole. Est-ce que la barre des 100 dollars dans les prochains jours peut être franchie ?
vous l'avez rappelé, on est actuellement pour le Brent de la mer du Nord, juste en dessous de $90 par baril. Goldman Sachs prévoit $100 au cours de l'année 2022. Alors, il faut tout de suite ajouter, Goldman Sachs ou pas, que personne n'a de boule de cristal pour prévoir les prix du pétrole. Mmh. Mais nous sommes sur une forte tendance haussière. Elle a commencé en fin 2020. Elle s'est poursuivie en 2021. Elle se poursuit au début de l'année 2022. On n'est pas forcément au bout. Et il y a quelque chose d'important à suivre dans quelques jours. Nous aurons début février une réunion de ce qu'on appelle OPEP+. C'est 23 pays producteurs et exportateurs de pétrole qui doivent se réunir pour décider ce qu'ils produiront en mars 2022.
Oui, s'ils voudront, oui ou non, ouvrir les vannes pour qu'il y ait davantage de pétrole sur le marché, pour parler français facile. Merci infiniment, Francis Perrin, d'avoir été avec nous, directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Olivier Pron nous rejoint. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
En direct de Limbé, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RFI à la Coupe d'Afrique des Nations. On s'est permis de vous réveiller ce matin car on a des questions justement concernant cette CAN et notamment le huitième de finale Cameroun-Comores. Henri, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les supporters des Lions Indomptables.
Et nous vous écoutons, oui puisque vous êtes à Douala, nous vous écoutons avec Olivier Pron.
Effectivement, le Comores lors de ce huitième de finale a joué sans véritable gardien de but. Ceci pour des raisons liées principalement au Covid-19. Cependant, Ali Amada, un des gardiens, a été déclaré négatif le jour du match, mais n'a pas été autorisé à jouer. Pourquoi donc la CAF a prolongé la quarantaine alors qu'il était apte? Et pourquoi la CAF a-t-elle changé le règlement la veille du match?
Ouais, bonne question posée par Henri, Olivier Pron. Les Comores ont dû titulariser un défenseur. Un défenseur dans les cages, ce n'est pas commun, Olivier.
Non, c'était même historique. Alors, le Refé Valente va vous expliquer qu'en Copa Libertadores, en 1922, c'était aussi arrivé. Mais dans un grand tournoi, dans un grand, grand tournoi comme la CAN, l'Euro, la Coupe du Monde, que sais-je encore, ça n'était jamais arrivé. Moment historique, Chaker à la dure, 1m72, pas commode quand on est gardien. Ajaccio, défenseur d'Ajaccio, on l'a vu qu'il avait quelques réflexes hein, face à Vincent Aboubakar lors du but du 2-0 à ce moment-là, même s'ils ont perdu finalement 2-1. Ben, en bon défenseur, dans la surface de réparation, face à l'attaquant, ben, il avait mis ses mains dans le dos, parce que ben, c'est un réflexe pour ne pas faire main dans la surface et donc entraîner un pénalty. Mais au-delà de ça, il a été exceptionnel, comme tous les Sélacantes qui peuvent sortir la tête haute. Vraiment combatif, exceptionnel.
Mais ce qu'on a du mal,
grand moment de football.
Olivier, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment se fait-il que l'un des deux gardiens comoriens, Ali Amada, qui a été testé négatif le matin même, n'a pas pu retourner sur le terrain le soir.
Alors, on va tout de suite dégonfler quelque chose qu'on entend à droite à gauche. Il n'y a pas eu de changement de règlement. Mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes. Il n'y a pas eu de changement de règlement. Il y a simplement eu décision de la CAF d'appliquer strictement le règlement qui avait été envoyé à toutes les équipes par les différents services de santé de la CAF le 21 octobre dernier. Et dans ce règlement, il est dit, alors ça n'est pas très très clair, mais il est dit qu'un joueur testé positif doit observer un isolement de 5 jours avant de subir de nouveaux tests l'autorisant à jouer. Alors au premier tour, il y a eu des petites dérogations. Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, vous le dira mieux que moi. Voilà, deux autres exemples.
Oui, on peut citer...
Un avait été testé.
Oui, mais Olivier Pron, oui. Un exemple, par exemple, le Tunisien Wabi Kazri, il était sur le terrain dimanche contre le Nigeria, moins de 5 jours après avoir été testé positif.
Donc on a... il faudrait recompter les jours parce qu'on n'est pas sûr que ce soit tout à fait moins de 5 jours. Mais ce que dit la CAF, c'est que c'est le règlement qu'elle a décidé au premier tour d'avoir quelques largesses et à partir des huitièmes de finale de ne plus en avoir. C'est ainsi, c'est contestable, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a eu un changement de règlement. La CAF, elle fait un peu comme elle veut et elle a décidé. Allez hop, huitièmes de finale, on verrouille tout. Bon. Et Ali Amada, il était négatif, mais il était négatif le matin même et il aurait fallu lui faire faire d'autres examens et elle ne l'a pas fait.
Donc pas de changement en règlement, comme on a pu lire ici et là, dimanche soir, c'est important de le rappeler. Olivier Pron, on vous retrouve tout à l'heure à 19h aux côtés d'Hugo Moissonnier pour suivre en direct sur RFI Mali, Guinée équatoriale. Bon match et je remercie Bertrand Éclair qui est à côté de vous pour les moyens techniques.